Prions le Seigneur. Seigneur, tu es fidèle et ta présence, Père éternel, est une assurance pour nous. Et pour la circonstance, Père éternel, tu veux nous nourrir encore de ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas, Père éternel, notre Dieu, que nos cœurs soient endurcis par rapport à ce que tu as à nous dire. Que maintenant, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que tout blocage, Père éternel, maintenant cède, afin que cette parole, Seigneur, que tu vas communiquer à chacun d'entre nous, pénètre nos cœurs et porte les fruits que tu attends. Merci, Seigneur, d'utiliser l'instrument de ce jour pour dire ce que toi tu veux. Manifeste, Seigneur, ta grâce encore au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, les versets 15 à 22. Luc, chapitre 3, les versets 15 à 22. Je lis pour nous le texte dans la version Louis II. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandèrent en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétraque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen.
Merci beaucoup pour cette très belle introduction. À l'écoute de la parole de Dieu, voici le jour du Seigneur. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Servir Dieu dans l'humilité et la vérité dans l'amour, tel est le thème de notre prédication ce matin. Il s'articule autour de trois séquences dans lesquelles nous dégagerons la portée de ce message pour notre édification. Le message de repentance proclamé par Jean-Baptiste, qui concerne tout homme et toute couche catégorielle de la société, amène ses auditeurs à s'interroger à son sujet. N'est-il pas le Christ ? Notre texte apporte un éclairage à cette question et nous relate également la persécution dont Jean est l'objet pour s'achever sur le baptême de Jésus-Christ. Servir Dieu dans l'humilité et la vérité dans l'amour. Comment ? Notre texte peut être subdivisé en trois séquences, montrant que le service auquel Dieu nous appelle doit se faire dans l'humilité, la vérité et l'amour. Bien-aimé peuple de Dieu, pour ce qui est de la première séquence, elle nous présente Jean-Baptiste caractérisé par une modestie remarquable. En effet, pendant un certain temps, au moins, il aurait pu se faire passer pour le Messie et drainer de grandes foules. Mais Jean-Baptiste préféra s'effacer et estimer Christ infiniment supérieur à lui. Il voit en Christ le puissant, celui pour qui il n'est pas capable de délier même la courroie de ses souliers. Il expliqua à ses auditeurs que son baptême était un rite extérieur et matériel qui amenait les hommes à la repentance, qui amenait les hommes à se tourner vers Dieu. Mais que Jésus qui vient, lui y baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, il marquera le cœur des hommes de la présence de Dieu. Et son baptême sera aussi le signe d'un jugement. Malgré donc ce fait, il est donc clair pour Jean-Baptiste. Il vient, celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. En effet, l'efficacité du ministère de Jean-Baptiste se trouve dans son humilité, l'amour et la vérité. Il va proclamer la vérité évangélique qui libère par amour pour ses auditeurs, au point de dénoncer avec amour les dérapages de Hérode. Même si cette annonce par amour pour Hérode va lui valoir la prison et plus tard la mort. L'humilité l'a emmené à ne pas mépriser les autres, mais à leur révéler la volonté de Dieu à leur sujet sans rien leur cacher. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens de plus en plus inefficaces aujourd'hui, que ce soit dans nos prédications ou dans notre manière d'être. Notre manière d'être qui ressemble à des agitations, ou encore notre prédication qui ne dit plus rien à personne. Pourquoi ? Parce que dénudé de tout amour, de toute vérité et de toute humilité. Oui, L'agitation au lieu de la grandeur de ce Dieu que nous servons, nous préférons nous tourner vers les intrigues et combattre les autres. Oui, Jean-Baptiste a proclamé la bonne nouvelle. La réponse qu'il a reçue de Hérode, c'est le combat. Au lieu de se repentir, Hérode le combat et le met en prison. Nous aujourd'hui, lorsque nous écoutons la bonne nouvelle du salut, au lieu de nous repentir, nous intriguons les uns les autres. Nous commençons à combattre les uns les autres et nous sortons de l'essentiel pour lequel Dieu nous a établis. Oui, pour Jean-Baptiste, servir Dieu dans l'humilité, tout en reconnaissant nos limites, voilà une leçon. Une leçon que plusieurs chrétiens et plusieurs personnes dans ce monde n'arrivent pas à manifester. Oui, on n'arrive plus à reconnaître nos limites et à valoriser les autres. On estime que les autres ne peuvent pas être meilleurs que nous. Ils peuvent être meilleurs que nous. Nous aussi, nous sommes meilleurs dans certains domaines. À titre d'exemple, plusieurs personnes dans le monde, pour peu qu'elles aient réalisé quelque chose, elles veulent que les regards soient focalisés sur leur personne, au point où si vous ne dites pas ou vous ne criez pas sur les toits ce qu'elles ont fait, cela peut être considéré comme un mépris. Également dans l'Église, des personnes, au lieu de servir dans l'humilité de façon complémentaire, préfèrent dénigrer les autres. En réalité, de telles situations dans l'Église sont nombreuses et traduisent le fait que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Jean-Baptiste avait conscience de qui il est et de qui il sert. Il avait conscience aussi de ses limites et de sa grandeur et de la grandeur de celui qui vient après lui. Nous pensons que notre paraître détermine notre être. C'est tout le contraire. Notre paraître ne peut jamais déterminer notre être. C'est notre être qui détermine notre paraître. Tel Jean-Baptiste, tels les gens veulent se ranger où ils veulent le ranger où ils souhaiteraient le voir, mais lui, il sait qui il est. Dans nos administrations et dans notre Église, il suffit que quelqu'un serve Dieu avec humilité et soit apprécié. On devient jaloux. On commence à le calomnier. Désirant prévaloir notre expérience ou notre ancienneté. Dans les bureaux, à peine vous arrivez, vous servez, vous êtes apprécié, on dit, il veut montrer quoi? Nous sommes là avant lui. Et c'est la même chose dans l'Église. Tu n'es qu'un hier. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Jean-Baptiste était le grand frère de Jésus d'au moins 6 mois. Il n'a pas prévalu sa grandeur vicariale, son expérience de vie. Il a reconnu que Christ, celui qui vient, est plus grand que lui. Oui, s'il est vrai que Jean-Baptiste manifeste son humilité dans le service, l'humilité nous donne d'être focalisé sur le service et non sur les personnes. Dans une des paroisses dans lesquelles j'ai été, il y a eu un différend qui a failli exploser un groupe qu'on appelle groupe d'animation liturgique. Tout simplement parce qu'une sœur qui devait chanter, un jour, on lui a dit que non, aujourd'hui là c'est un événement un peu compliqué, vraiment il faut laisser, quelqu'un d'autre va chanter. Elle en a fait tout un problème. toute une crise. Et je lui demande, pour qui chantes-tu? C'est pour paraître, c'est pour t'exhiber ou c'est pour la gloire de Dieu? Il faut encore méditer sur les actions que nous posons. Plusieurs personnes, également dans notre monde, mettent en avant leur paraître dans l'Église, veulent entreprendre des choses pour qu'on sache qu'elles sont là. On sait que tu es là. Ce n'est pas en faisant certaines choses qu'on saura que tu es là. Tu es là. Mais c'est dans l'humilité que réside ta grandeur. Par amour pour ses contemporains, il a dénoncé l'égarement et voulait éviter que ses contemporains périssent. L'exemple le plus frappant fut celui de Hérode. Par amour pour ce dernier, Jean lui avait reproché sa relation adultère avec sa belle-sœur. Au lieu de se repentir, il mit le comble à toutes ses mauvaises actions en le jetant en prison. Des Hérodes, on en a dans notre société. Des frères qui sont devenus des ennemis, tout simplement parce qu'on a osé leur reprocher une conduite indélicate. L'amour pour les frères doit nous amener à leur dire la vérité, pas pour les mépriser, mais pour les aider à être meilleurs. Telle était l'intention de Jean-Baptiste. Dis à ton voisin, ne sois pas un Hérode. La seconde séquence de notre texte se focalise sur la personne de Jésus, notamment sur sa mission, celui que Jean-Baptiste annonce, à savoir le Christ baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais la paille, il la brûlera dans le feu. Voilà résumé la mission de Jésus. Relevons que le baptême du Saint-Esprit est opéré par Dieu seul dans la vie du croyant dès sa conversion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu dans le cœur du croyant. En effet, lorsqu'on reçoit le baptême d'eau, c'est le signe qu'on s'est repenti. Et lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu reconnaît votre conversion et marque sa présence en vous par son Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, donc, n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas un homme qui peut vous baptiser du Saint-Esprit. Seul Dieu en est capable. Et Jésus nous baptise du Saint-Esprit dès que nous faisons l'expérience de la repentance. Il faut donc comprendre, il s'agit de l'action d'un homme vers Dieu lorsque c'est le baptême de repentance, le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, il s'agit de l'action de Dieu en l'homme. Qu'en est-il donc du baptême de feu? Le baptême de feu est le signe d'un jugement. Quand Jésus va baptiser de feu, c'est-à-dire va prononcer un jugement. Jésus est présenté comme un vanneur. En jetant des épis battus en l'air, il expose la paille au vent qui sur l'air de battage à côté des grains. Il suffit alors de rassembler et de jeter au feu. Jésus va rassembler la graine. Il va rassembler la graine et la paille, il va la brûler au feu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le symbole du jugement. Le blé ici symbolise tous ceux qui ont cru en Dieu et en qui Jésus a déposé le cachet du Saint-Esprit à la suite de leur conversion. Et la paille représente tous ceux qui auront, malgré les exhortations, malgré la prédication, refusé le message de salut qu'apporte Jésus et seront donc déjà jugés. Jean chapitre 3, versets 17 à 18, celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné. En clair, la mission de Jésus consistera à faire de nous des élus de Dieu, mais toujours est-il que deux options sont présentes, accepter Jésus par la conversion et être baptisé du Saint-Esprit, ou rejeter Jésus et connaître le jugement. Dis à ton voisin, ne sois pas la paille, mais deviens le blé. Bien-aimé peuple de Dieu, notre troisième séquence porte sur le baptême de Jésus. Comme les hommes du peuple, Jésus fut baptisé par Jean. Quelle humilité! Quelle humilité pour Jésus! Notons que le baptême administré par Jean était celui de la repentance. Alors, Jésus, n'ayant pas commis de péché, n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin du baptême de Jean. Mais pourquoi reçoit-il ce baptême? Tout simplement pour que le témoignage de Dieu à son sujet soit rendu. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voilà le témoignage qui devait être rendu au baptême de Jésus. Le baptême de Jésus marque l'une des trois occasions où Dieu parle des cieux en rapport avec son ministère. Selon l'évangéliste Luc, notre Seigneur Jésus ouvre son ministère par son baptême. Trois faits marquants d'une haute signification sont relevés ici. Pendant le baptême, Jésus prie. Pendant le baptême, Jésus prie. Comme pour dire que la prière est la clé, ce qui traduit sa communion, sa dépendance au Père. Il est conscient que sa mission s'accomplit par la qualité de sa communion dans la prière avec Dieu. Deuxième élément, bien-aimé, deuxième élément, le ciel s'ouvre. Toutes les fois que le ciel est ouvert, le peuple est béni. La présence de Jésus lors de son baptême ouvre le ciel pour chacun de nous. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, signe de son autorité. Ainsi, lors du baptême de Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis en une seule personne, signe que Dieu est venu vers nous pour accomplir une mission, celle de notre salut. Servir Dieu dans l'humilité et la vérité dans l'amour. Oui, c'est ce que Jésus est appelé à faire. Mais pour y arriver, il est porteur de paix. C'est pourquoi pendant son baptême, une colombe descend sur lui, signe de la paix de Dieu à un monde en furie. Notre monde a aussi besoin de cette paix. Vous et moi, nous avons besoin de cette paix que Jésus apporte. Oui, le ministère de Jean, tout comme celui de Jésus, est caractérisé par l'humilité et le service. Il pouvait refuser d'être baptisé par Jean. Jésus pouvait le faire parce qu'il est grand. Il pouvait avoir tous les prétextes, mais il a refusé de rester dans sa grandeur en toute humilité parce que Dieu devait être glorifié. Il a compris que le ministère de Jean était complémentaire au sien. Mes frères et sœurs, celui que Dieu met à côté de toi, son ministère est complémentaire au sien. Ils ne sont pas opposés ou opposables. Si tu chantes dans la chorale, si tu es ancien d'église, si tu es pasteur, nos ministères sont complémentaires et ne doivent pas s'opposer. Dieu a mis en chacun de nous un potentiel. Mets-toi avec le Seigneur pour qu'il déploie ton potentiel. Il ne peut le faire que dans l'humilité, l'amour et la vérité. Voilà comment tu seras efficace pour être fécond en cette année. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.